Radio Barque, Jean-Louis Rioux, maire de Bâche-d'Aude, invité aujourd'hui. Nous allons, monsieur le maire, mais aussi monsieur le vice-président du Grand Narbonne, évoquer votre vice-présidence. Alors c'est l'urbanisme, l'aménagement du territoire, mais aussi le logement social. Commençons peut-être par la vision justement de l'urbanisme. Qu'est-ce que ça implique aujourd'hui, une vision urbanistique pour le Grand Narbonne ? Grand territoire, rappelons-le, qui va de Bâche à Coursan.
Tout à fait, oui.
De Leucate au sud à Coursan au nord.
Tout à fait, oui. Donc l'aménagement du territoire, donc c'est un thème central, que ce soit pour l'État d'ailleurs ou pour une collectivité comme le Grand Narbonne. L'aménagement du territoire, ça prend un certain nombre de sujets tels que le développement économique, le développement de l'urbanisme au titre du logement et évidemment le logement social dans un deuxième volet qu'on abordera. Lorsque je suis arrivé en tant que vice-président, les études et le SCOT, le schéma de cohérence territoriale, avait été bouclé par la précédente équipe. Voté à l'unanimité de l'ensemble des membres, ce SCOT est donc aujourd'hui applicable, puisqu'il y a quelques jours, le contrôle de légalité nous a donné acte sur ce document. Donc les grandes orientations d'urbanisme sont fixées. Évidemment, à l'intérieur de ces grandes orientations d'urbanisme, un des éléments très importants, c'est le développement économique, l'emploi, mais aussi tout ce qui a trait à l'environnement, le paysage et tout ce que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire que l'équilibre écologique de nos territoires. Donc l'aménagement du territoire aujourd'hui prend l'ensemble de ces éléments et essaye de faire en sorte que on puisse gérer au mieux ce territoire donc de 37 communes, qui est quand même un territoire important, et surtout de bien coordonner les choses entre la ville-centre et toutes les communes. Alors la spécificité, évidemment, de la mairie de Bâche, mais comme d'autres petites communes, avec des communes intermédiaires qui sont un peu plus grandes, comme la ville de Gruissan, la ville de Port-la-Nouvelle, Sigean, Fleury et tant d'autres. Voilà. Donc une grande diversité de communes avec des volontés donc très diverses hein, en termes de développement. On voit bien que la partie littorale a une volonté de développement qui est importante liée à la partie tourisme. Et puis à l'intérieur des terres, on est beaucoup plus sur des dimensions agricoles, viticoles et de paysage. Donc c'est une alchimie à trouver entre toutes ces composantes de façon à faire un développement le plus harmonieux possible.
Alors concrètement, vous le soulignez à l'instant, Jean-Louis Rioux, je dirais pas la mode, mais la tendance, la visée et la vision sont à l'écologie, au vert. Et alors les technocrates nous ont pondu un certain nombre d'expressions un peu barbares du genre « désimperméabilisation des sols », ou j'en cite un autre « zéro artificialisation des sols ». Ça veut dire quand même quelque chose, mais qu'est-ce que ça veut dire pour le commun des mortels? Qu'est-ce que ça implique pour l'avenir?
Eh bien, par exemple, la désimperméabilisation, c'est quelque chose qui ramené à l'exemple que je vais vous donner, va vous permettre, en tout cas aux auditeurs, de bien comprendre. Nos cours d'école ont été bâties, bien souvent, tout en béton.
Et en goudron.
En goudron. Donc, le sol est totalement artificialisé. Aujourd'hui, un certain nombre de communes ont déposé des dossiers et sont en train de faire de la déperméabilisation de leurs cours d'école. Donc elles sont aménagées en respectant donc les infiltrations d'eau nécessaires et en mélangeant la partie minérale et la partie végétale. Avec des très bons résultats, un certain nombre de communes se sont lancées dans ces opérations. Il y a des aides qui sont apportées par le Grand Narbonne. Il y a des aides également d'État qui viennent sur ces programmes. Et c'est des opérations qui conduisent bien évidemment... comme son nom l'indique, désimperméabilisation, ça signifie que les eaux de pluie vont pouvoir s'écouler librement et ne pas rester en surface.
Oui, ce sont des idées qui sont nées, j'imagine, au moment des grosses pluies et des inondations.
Voilà. Et ça permet également, donc on est aussi, si vous voulez, sur un certain nombre d'autres aménagements, comme par exemple la végétalisation des façades, des pieds de façade en centre-ville. Bien souvent en centre-ville, on n'a pas d'espace vert. Donc il y a aussi des accompagnements qui se font sur la possibilité d'amener des végétalisations des façades à l'intérieur des centres-villes. Tout ça conduit effectivement à réduire l'effet de serre. Ça conduit également à apporter esthétiquement un plus indéniable sur l'intérieur des centres-villes. Et cette désimperméabilisation, parce qu'on crée quelques points de respiration, permet effectivement aux eaux de s'infiltrer,
oui,
donc de ne
ça
pas
évite
rester.
Les ravinements qu'il
exactement,
y a voilà. lors des grosses pluies.
Donc ce n'est pas qu'une mode, c'est effectivement quelque chose de fondamental pour nos sociétés.
Oui, ça corrige en fait une bêtise qu'on avait faite auparavant.
Je crois, il faut le dire comme ça, même si mon grand âge aujourd'hui me fait dire que je suis peut-être responsable à un certain moment d'avoir contribué à ça. Aujourd'hui, évidemment, on arrive à un certain nombre de choses qui sont plus mesurées par rapport à l'environnement et souhaitables.
Et alors, l'autre expression que je citais tout à l'heure, zéro artificialisation des sols, ça pourrait laisser entendre qu'on ne veut plus rien construire au niveau urbanistique, qu'on ne veut plus laisser les villes grandir.
Alors c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que, en gros, le zéro artificialisation, c'est de dire que lorsqu'on fait, par exemple, une zone d'activité économique, on va faire en sorte que véritablement ce qui va pouvoir être artificialisé, c'est le strict nécessaire par rapport à la voirie et à l'implantation des bâtiments. Tout ce qui va être autour, les parkings, les circulations internes, etc., vont permettre la libre circulation des eaux, notamment, hein, et cette imperméabilisation, de façon à artificialiser le moins possible les endroits qui sont nécessaires au bâti.
Donc on retombe un peu sur la notion précédente.
On retombe un petit peu sur cette notion. Il y a aussi la volonté par le législateur de dire zéro artificialisation, c'est construire la ville sur la ville. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de chaque ville, il y a un certain nombre de dents creuses.
Mais ça, c'était déjà la loi SRU il y a une vingtaine d'années.
C'était déjà ça. C'était l'objectif de se dire on construit plutôt à l'intérieur des villes, intramuros, plutôt que d'essayer d'aller artificialiser des terres qui sont aujourd'hui des terres agricoles et dont on doit laisser aux générations futures le bénéfice. Donc l'idée de zéro artificialisation, elle est là. Et puis en même temps, si vous voulez, lorsqu'on fait une zone d'activité économique, on doit des compensations. C'est-à-dire que les parties qui sont artificialisées, les opérateurs, comme le Grand Narbonne, ont l'obligation d'aller acquérir des terres qui sont aujourd'hui à l'abandon et d'en faire un projet qui va être un projet en relation avec la faune et la flore et améliorer les capacités et écologiques du terrain en question. Donc, pour 1000 mètres carrés, par exemple, imperméabilisés, on va restaurer 1000 mètres carrés ailleurs sur le territoire.
Oui, donc, Jean-Louis Rio, on est vraiment sur les visées écologistes. Ça prend et ça a l'air d'être adopté, finalement, par l'opinion publique et par les élus.
Oui, tout à fait. C'est quelque chose aujourd'hui qui est en train de réellement... moi qui ai connu il y a une vingtaine d'années, c'était lorsqu'on parlait de ces thèmes, 20, 30 ans, on était un petit peu les martiens. Aujourd'hui, c'est le contraire. Je veux dire, tous les élus ont cette prise de responsabilité qui est au travers des générations futures. C'est-à-dire qu'on comprend bien aujourd'hui l'intérêt de faire du développement, certes, mais du développement intelligent qui respecte l'ensemble des composantes de la nature.
Voilà, ça semble un acquis de ce point de vue-là, en
complètement,
tout cas.
Complètement.
Alors, deuxième point important de votre délégation, le logement social, ce qu'on appelle familièrement les HLM. Alors expliquez-nous succinctement, Jean-Louis Rion.
Alors tout d'abord, il faut savoir que le premier des éléments qu'on doit citer lorsqu'on parle du logement social, c'est que 80% des habitants audois pourraient bénéficier d'un logement social compte tenu de leur niveau de revenu.
Pourraient, mais on en est loin.
Alors aujourd'hui, on a Domicia Habitat, qui est l'office public d'HLM du Grand Narbonne. Petit aparté, l'année dernière, donc la loi Elan donnait l'obligation donc aux opérateurs HLM d'avoir un minimum de 12 000 logements.
Donc imposer des regroupements.
Imposer des regroupements donc par l'État. Le Grand Narbonne a fait le choix, deux possibilités s'ouvraient à elle, soit l'absorption par Habitat Audois, office départemental, ou le regroupement avec deux offices, l'office public d'HLM de la ville de Castres et la SA Patrimoine Languedocien, société d'HLM sur le secteur toulousain, mais qui a également des opérations sur Narbonne.
Et alors comment justifier justifier ce choix ?
Ben, simplement pour pouvoir continuer à avoir un opérateur local au niveau du Grand Narbonne. C'est-à-dire que Domitia reste Domitia, et la politique initiée par le Grand Narbonne a son bras armé avec Domitia intégralement, ce qui n'aurait pas forcément été le cas avec l'autre solution, puisque ça devenait un office départemental et Domitia aurait été absorbé. Donc ce choix a été fait par la grande majorité du Grand Narbonne au mois de décembre dernier. Et aujourd'hui, nous pouvons travailler à la continuité du développement de Domitia Habitat.
On va revenir sur Domitia, mais il y a, Jean-Louis Rio, ce qu'on appelle d'autres bailleurs sociaux, c'est-à-dire des organismes qui mettent à disposition des gens des HLM. Citons-les rapidement.
Alors rapidement, vous avez évidemment Domitia Habitat, vous avez Alogea, vous avez la société anonyme Marcoux et vous avez Habitat Audois que j'ai cité tout à l'heure.
Voilà, qui est départemental comme structure. Voilà. Alors revenons sur la vôtre, entre guillemets, ou la nôtre, celle du Grand Narbonne. Donc l'ancien office des HLM, Domitia Habitat aujourd'hui. Qu'est-ce que ça représente en nombre? Très important, je crois.
Alors aujourd'hui, c'est 3727 logements qui sont répartis dans 13 communes du Grand Narbonne, dont la majeure partie, donc plus de 3500 logements, sont sur Narbonne même. Donc effectivement, un parc important. Donc l'importance aussi, pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, ce patrimoine réalisé depuis un siècle par Domitia, puisque Domitia, l'année dernière, on aurait dû fêter le centenaire. C'est un patrimoine constitué par les Narbonnais. Hein, c'est les Narbonnais qui ont constitué ce patrimoine, et donc il était important de pouvoir continuer à travailler avec l'office public du Grand Narbonne, donc en l'occurrence Domitia Habitat.
Oui, un petit point d'histoire, c'est sous les mandats successifs d'Hubert Mouly que le parc est devenu ce qu'il est aujourd'hui, qu'il a atteint sa taille.
Tout à fait, tout à fait. Alors aujourd'hui, la politique, si vous voulez, en termes de logement, la ville de Narbonne, comme je viens de vous le dire, avec 3500 logements, est largement au-dessus des quotas imposés par la loi SRU, qui sont, pour rappel, de 20%. Aujourd'hui, la ville de Narbonne est à 22-23%. Donc l'objectif défini par les élus du Grand Narbonne et les élus de la ville de Narbonne est de dire... consolidons le patrimoine, c'est-à-dire réhabilitons les opérations qui doivent être réhabilitées sur Narbonne, principalement, et sur les autres communes si nécessité. Et jusqu'à la fin du mandat, c'est plus de 15 millions d'euros qui vont être mis en jeu pour les réhabilitations des différents programmes. Donc une part très importante de la politique, là, on est vraiment sur la politique du Grand Narbonne, qui découle sur les orientations de ce que va réaliser Domitia dans les années à venir.
Oui. Alors le sujet est important. Je pense qu'on va faire une petite exception. On va marquer une deuxième pause. Et on reviendra quand même sur ce sujet tout à l'heure dans une troisième partie. À tout de suite.